Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour. Le 8 avril 1904, dans une convention bilatérale signée à Londres, la France renonça à toute prétention sur l'Égypte, tandis que l'Angleterre reconnaissait à la France le droit de, je cite, veiller sur la tranquillité du Maroc. Il s'agissait là du premier pas de ce qu'on appela alors l'entente cordiale. Pas décisif s'il en est pour le XXe siècle naissant, pas incroyable quelques années auparavant, au moment de l'affrontement colonial. Travail surtout de deux hommes du côté français, Paul Cambon, ambassadeur de France à Londres, et notre ministre des Affaires étrangères Théophile Delcassé, et du côté de l'Angleterre, d'un roi, Édouard VII, qui sut plaire aux Français et œuvrait au rapprochement des deux pays. En cette année de commémoration, nous regardons le siècle précédent et nous pouvons faire un bilan de ce que fut l'entente cordiale, sa réalité, ses choix, sa résistance aux épreuves et enfin sa pérennité. Pour faire ce bilan, Un jour dans l'histoire reçoit Gabriel de Breuil, membre de la Française et de l'Académie des sciences morales et politiques. Gabriel de Breuil, bonjour.
Bonjour.
Je vous reçois aujourd'hui en tant qu'historien. Vous êtes président de la Société d'histoire diplomatique, auteur de nombreux ouvrages, dont un MacMahon, paru en 2000. Vous venez de rééditer votre Guizot et vous venez d'organiser un colloque sur l'entente cordiale dont les actes vont être publiés. Alors je renvoie de suite nos auditeurs à la livraison de la Revue des Deux Mondes du mois de janvier 2004, qui est consacrée, la Revue des Deux Mondes, aux 100 ans d'entente cordiale France-Angleterre, donc janvier 2004. Alors, Gabriel de Breuil, il existe un mouvement historique contemporain qui tente de déceler les prémices de l'ordre européen au XIXe siècle. Alors, quelles ont été ces prémices et, au fond, peut-on lier cette volonté de créer un ordre européen à cette future entente cordiale ?
Alors, est-ce que l'entente cordiale naît d'efforts d'organisation de l'Europe, c'est-à-dire de l'ensemble des grandes nations, au cours du XIXe siècle ? Je n'en suis pas sûr. C'est un événement considérable et une des importances que l'on peut accorder à l'événement de 1904, c'est que c'est un renversement. C'est un événement assez nouveau. Et donc, je ne suis pas sûr que l'on puisse le faire naître de ce qui a précédé. Regardons ce qui a précédé. Il y a des antécédents à l'entente cordiale, bien entendu. Il y a eu l'expérience de Choiseul et une première période de recherche d'entente cordiale. Il y a surtout eu la première entente cordiale, celle de Guizot, en 1843.
Qui est l'inventeur d'ailleurs de
qui est l'inventeur de la formule. Enfin, c'est Louis-Philippe qui, au fond, avait dit « ma cordiale entente avec la reine Victoria », ce qui est devenu l'entente cordiale, dégagée de tout contexte personnel. Mais c'était bien dans la manière de Louis-Philippe d'avoir recherché une entente avec une personne et d'avoir joué auprès d'elle de toute la séduction dont il était capable, secondé par Guizot, excellent ministre, et qui a, lui, été l'artisan de l'entente cordiale avec un ministre anglais également tout à fait agissant qui était Lord Aberdeen. Alors, il y a un autre précédent qui est que, quelques années plus tard, Napoléon III renoue une entente cordiale avec la même reine Victoria, qui avait accueilli en exil Louis-Philippe, renversé par la révolution de 1848, et qui renoue quelque chose qui ne s'est pas appelé l'entente cordiale, mais tout de même une alliance militaire, des traités et un réchauffement des relations en 1855. L'alliance militaire, c'est pour la guerre de Crimée, et des traités et une visite à Paris en 1856. Donc, il y a des précédents, mais ces précédents m'apparaissent à moi comme des îlots dans un siècle qui, lui, n'est pas bien favorable à la notion d'entente cordiale entre la France et la Grande-Bretagne. En réalité, si l'on peut dire que la France a eu un ennemi héréditaire, c'est plutôt l'Angleterre que l'Allemagne. L'idée d'ennemi héréditaire personnifié par l'Allemagne est une idée plus récente et qui date justement de la Première Guerre mondiale. Auparavant, l'ennemi héréditaire de la France, c'est la Grande-Bretagne qui est en rivalité avec elle pratiquement sur tous les points, mais en particulier sur le point de l'équilibre européen ou du concert européen à rechercher toujours et toujours déçu, toujours manqué. Alors, il faut évidemment rappeler la tentative de domination européenne de Napoléon, le blocus continental et son échec, auquel la Grande-Bretagne a participé probablement plus que toutes les autres nations européennes. Il faut rappeler l'Alliance, la Sainte Alliance et le Congrès de Vienne qui fait apparaître une nouvelle notion de l'équilibre européen, mais dont la France est pratiquement pas exclue, mais s'est organisée pour éviter un retour des tentatives d'hégémonie française. Et donc l'équilibre européen dans ce contexte, c'est une manière de faire que la France soit empêchée de toute nouvelle tentative hégémonique et que la Grande-Bretagne soit le garant de cet équilibre dans ses propres intérêts. Et dans ce sens, à mes yeux, le XIXe siècle apparaît comme le grand siècle anglais, l'Angleterre ayant pratiquement dominé la scène internationale pendant toute la période. Et l'ennemi héréditaire se retrouve sur les autres champs de bataille, non plus européens, mais dans l'expansion coloniale. Nous nous sommes heurtés à la Grande-Bretagne dans tous les coins du globe, et souvent il y a eu affrontements directs, avec risque de guerre, d'ailleurs plusieurs fois, sous Louis-Philippe, sous la monarchie du Juillet, puis à nouveau, alors vous le citiez, au moment de l'affaire de Fashoda, très grave. Souvent, ça a été une course de vitesse et c'est finalement les opinions, peut-être la sagesse qui a empêché qu'il y ait un véritable conflit ouvert. La situation n'était pas, était à peu près le contraire de ce que c'est qu'une entente cordiale. Alors, en réalité, les choses se sont nouées à une période assez limitée dans le temps, me semble-t-il, qui est la fin du XIXe siècle et les toutes premières années du XXe. Et alors là,
est-ce qu'il n'y a pas une peur au fond, j'allais dire dans l'idée du concept de balance of power, est-ce que l'Angleterre n'a pas voulu réagir à l'expansion allemande ? Est-ce que ce n'est pas osé de dire cela pour la fin du XIXe siècle ?
Oui, c'est ce qui s'est passé, en effet. En effet, l'Angleterre domine la scène européenne, économique, financière et militaire. Et un des instruments de cette domination, c'est la puissance navale. Et l'Angleterre a érigé, s'est donné à elle-même une règle qui est le Two Power Standard, qui est que la marine anglaise devait à tout moment être égale à la somme des deux principales marines, enfin militaires, en Europe. Et c'était le signe apparent de son pouvoir, et en même temps un bon moyen de l'exercer. Alors, la montée de l'impérialisme allemand, en effet, a menacé cette hégémonie. Pas équilibre, hégémonie. Et les programmes de construction navale de Guillaume II ont fait que la règle anglaise n'était plus vraie ou plus possible. Et donc l'Angleterre s'en est inquiétée et s'est aperçue, enfin a compris qu'elle ne pouvait pas rester seule face à cet impérialisme allemand qui faisait aussi des progrès sur le plan industriel, sur le plan économique, et qui donc devenait vraiment menaçant. La menace, évidemment, se portait aussi sur le terrain colonial, puisque l'Allemagne voulait se tailler un empire, arriver plus tard que les autres nations, et menaçant à la fois la Grande-Bretagne et la France, mais surtout la France au Maroc. L'Allemagne ayant tenté d'avoir une influence précise, particulière au Maroc, et voulant en tout cas contrer la France dans sa tentative de protectorat sur le Maroc. C'est là que tout s'est noué, en effet. Le jour où les programmes de construction navale de Guillaume II ont menacé le Two Power Standard de la Grande-Bretagne, il y a eu l'urgence à trouver quelque chose. Il y a eu un autre élément qui est intervenu précis, bien précis. C'est la Grande-Bretagne était l'alliée du Japon. Et en 1903-1904, il monte un conflit entre la Russie et le Japon. Et la France est l'alliée de la Russie. Et la Grande-Bretagne veut empêcher la France de se porter au secours de la Russie dans la guerre qui se prépare avec le Japon. Elle peut le faire grâce à l'Indochine. Et elle peut, non pas entrer ouvertement en conflit avec le Japon par l'Indochine, mais elle peut gêner les relations navales, elle peut faire un cliquetis d'armes, en particulier navales, dans cette région du monde qui aurait gêné le Japon contre la Russie. Et donc c'est ce contexte qui a fait que la Grande-Bretagne se soit montrée ouverte à une recherche d'un autre équilibre que celui de son hégémonie en Europe. Alors, comme vous le avez dit, ce sont deux hommes qui ont bien capté cette possibilité. En France, le ministre des Affaires étrangères, Delcassé, et l'ambassadeur Paul Cambon. Deux hommes remarquables qui étaient assurés d'une certaine autonomie de leur politique, de leur pouvoir, parce que la France était un peu plongée dans les querelles intestines, les querelles politiciennes. Le président du Conseil était Méline, qui ne s'occupait pas beaucoup de politique étrangère, même pas du tout. Et donc Delcassé était en charge de la politique étrangère de la France, comme il a été précédemment en charge de la politique coloniale, lorsqu'il a été ministre des colonies.
Alors Delcassé va rester 7 ans. Oui. En tant que ministre des Affaires étrangères, ce qui est énorme.
C'est un homme fort, c'est ça. C'est un homme fort qui a une grande ascendance sur le Parlement et une grande ascendance aussi sur tous les acteurs européens. Il reste 7 ans. Quant à Paul Cambon, alors lui, il reste 21, 22, 23 ans en poste à Londres. On imagine ses carrières d'ambassadeur, pas plus de 20 ans en poste à Londres. Il y a aussi une autorité considérable, c'est un ambassadeur très remarquable, il fait partie de cette pléiade de grands ambassadeurs que nous avons eus à la fin de la Troisième République avec son frère, l'autre Cambon, et Barrère.
À Rome,
lui aussi, plus de 20 ans. Ça a grandement facilité le rétablissement diplomatique de la Troisième République qui était tout de même née après une défaite, et un rétablissement très brillant. Alors, les deux hommes, Delcassé en particulier, lui est partisan par une vision très construite. L'échiquier européen et mondial, et colonial en particulier, il est partisan d'une entente avec la Grande-Bretagne, essentiellement, il faut le dire, pour contrer l'Allemagne. Dans l'esprit des Français, la recherche d'une entente avec la Grande-Bretagne, c'est pour contrer l'Allemagne. Avec un point précis d'application, c'est le Maroc. Tout l'espoir de la France, c'est d'obtenir un protectorat sur le Maroc, après celui sur la Tunisie, dont Delcassé est l'artisan. Et cela ne sera possible qu'avec un arrangement avec la Grande-Bretagne contre l'Allemagne. L'Allemagne, elle, sait qu'elle devra céder sur le Maroc, mais elle voudrait le faire justement avec liberté d'allure dans d'autres régions d'Afrique et surtout éviter une alliance entre la France et la Grande-Bretagne. Donc le jeu, il est à 3 avec ce qui se profile du côté de la guerre russo-japonaise et ces deux équations militent pour un rapprochement entre la France et la Grande-Bretagne.
Thank you.
Un jour dans l'histoire reçoit Gabriel de Breuil, membre de la Française. Il y a une action parallèle, nous citions tout à l'heure Barère qui est à Rome. La diplomatie française également est très active à Rome en tentant d'obtenir une neutralité italienne en cas de conflit avec l'Allemagne.
Oui, absolument. Il faut dire que le conflit monte dès cette époque-là. Et il est très intéressant de noter que l'Allemagne durcit sa position à plusieurs reprises parce que les tendances économiques et industrielles françaises à l'époque, la période 1900-1905, a été une période de croissance économique et industrielle très importante et que l'Allemagne s'en inquiète et que nous sommes en train de rattraper le niveau industriel de l'Allemagne à cette époque-là. Et d'une certaine manière, malheureusement, on peut dire que le conflit de 1914 a eu pour cause en partie et pour résultat de casser l'essor industriel français si brillant dans les années 1900. Et donc, l'idée est dans l'air. Des hommes concourent aussi du côté anglais et évidemment la personnalité du roi parisien d'adoption lorsqu'il était prince de Galles joue beaucoup. Il vient en visite d'ailleurs à Paris en 1903, je crois, et les contacts se nouent à ce moment-là. Et donc le 8 avril 1904, on signe à Londres, c'est Paul Cambon qui signe les instruments, un accord bizarre qui ne ressemble à pas du tout majestueux, mais qui ressemble à la manière dont on termine un contentieux, et on termine le contentieux colonial. La France reconnaît la liberté d'allure de la Grande-Bretagne en Égypte et la Grande-Bretagne reconnaît la liberté d'allure, la possibilité pour la France d'établir un protectorat sur le Maroc. Très important, évidemment. Et alors, il y a d'autres clauses annexes portant sur d'autres points de contentieux colonial. Et voilà, ce n'est pas une alliance, ce n'est pas non plus quelque chose de très général. Ça commence comme ça, mais ne serait-ce que cela, cela mérite d'être commémoré 100 ans plus tard, parce que c'est un renversement des alliances. C'est que ce qui opposait les deux nations le plus chaud, le plus vif depuis un siècle, est en train d'être aplani, liquidé, et s'ouvre une période de bonne entente, car cela se fait dans un esprit de très bonne entente, grâce au roi d'Angleterre et grâce à Delcassé.
Peut-on comparer, vous parlez de renversement des alliances, peut-on comparer ce renversement des alliances ou le renversement des alliances avec l'Autriche au XVIIIe siècle?
Écoutez, moi je dirais alors une chose, c'est que le renversement des alliances avec l'impératrice Marie-Thérèse, ça a été quelque chose d'extrêmement important. Je ne suis pas sûr que ça ait eu de très bons résultats sur le plan diplomatique et sur le plan des relations internationales de la France. Tandis que le renversement des alliances en tant que cordiale avec la Grande-Bretagne a eu des effets extraordinairement importants, bénéfiques et qui ont duré beaucoup plus longtemps. Mais on peut comparer, en effet.
Je reçois Gabriel de Breuil, membre de la Française. Nous nous retrouvons après une première pause.
Vous écoutez Canal Academy, la suite de votre programme dans un instant.
Bonjour, c'est Hélène Renard. Je vous invite tous les jours sur Canal Academy pour l'émission Au fil des pages. L'actualité littéraire, les livres des académiciens, ceux dont ils recommandent la lecture, ou encore les ouvrages déposés sur le bureau de l'Académie des sciences morales et politiques lors des séances. Chaque jour, je vous invite à la lecture, à la découverte de l'histoire, de la société, des femmes et des hommes qui font l'actualité littéraire. C'est dans Au fil des pages. À tout à l'heure.
Un jour dans l'histoire reçoit Gabriel de Breuil, membre de la Française. Gabriel de Breuil, vous avez organisé récemment un colloque sur l'entente cordiale et nous évoquons avec vous ce centenaire de l'entente cordiale 1904-2004. Alors vous évoquiez tout à l'heure Édouard VII qui est venu à Paris en 1903 et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'Édouard VII vient à Paris et finalement il se fait un peu recevoir sous les colibés, on crie fachoda, on pense colonie et au fond il repart en Angleterre, cette fois dans le cœur des Français. C'est-à-dire qu'il a agi avec un tact extraordinaire. Est-ce que vous pourriez revenir sur ce point ?
C'était un personnage extrêmement séduisant que Édouard VII. Et très francophile et étant venu très souvent en France, ayant passé une partie de sa jeunesse à Paris, il était reçu chez le marquis de Breteuil, qui a été, au fond, son introducteur dans la société française. Et à Paris, il connaissait tout le monde. Il est venu très souvent. Il venait aussi s'amuser. C'était un héros des nuits parisiennes. Il a eu des relations à Paris. Il était connu pour cela.
Alors justement, c'est d'une face extraordinaire, parce que d'un côté, il avait, disons-le, une réputation de coureur, de homme.
Oui,
et
oui.
D'un autre côté, il arrive au pouvoir et il mène une politique véritablement volontariste.
Oui, oui. Ben, il succède à la reine Victoria, il faut le dire, n'est-ce pas? C'est pas n'importe quelle succession. Et il ne va pas lâcher les instruments de la domination britannique et de l'empire britannique comme cela. Et finalement, il est un bon roi et il pense qu'il peut jouer de sa bonne connaissance de la société française. Et avec juste raison, la situation n'est pas favorable, comme on le disait tout à l'heure. Les journalistes sont tout à fait hostiles, enfin, en tout cas réservés à l'égard de la Grande-Bretagne et de la politique anglaise, et n'ont pas aperçu qu'il se préparait là un véritable renversement. Et Édouard VII joue de son charme, il reçoit tout le monde, il est très adroit vis-à-vis de tous les personnages politiques, il revoit ses relations, ses amis dans la société française. Enfin, c'est un voyage d'État parfaitement réussi, ce qui n'est pas si facile que ça. Réussi parce qu'il conquiert le cœur de l'opinion française. Et c'est à partir de là donc, que cette entente cordiale qui a un côté affectif, c'est ça qu'il faut souligner. C'est un événement très important qui va développer des conséquences considérables, mais qui au départ naît d'une sympathie retrouvée, et même du plaisir de trouver une sympathie avec la Grande-Bretagne. Alors, ça, à partir de cet accord colonial, d'autres accords interviennent, savamment préparés par Delcassé et Cambon, qui sont des accords entre militaires. Il y a des accords d'état-major, on échange les plans, il y a des accords entre marines, militaires, et tout cela prépare quelque chose d'un peu plus sérieux qu'un simple accord de troc entre « je te donne ceci, tu me donnes cela ». Et puis, le contexte européen se développant aussi de manière difficile à cause des visées allemandes, se noue en 1906 et 1907 la Triple Entente qui, elle, est une alliance.
Alors, il y a en 1906 la fameuse conférence d'Algésiras,
voilà,
qui va solidifier en quelque sorte cette entente puisque l'Angleterre va ouvertement prendre le parti de la France dans
pour le protectorat sur le Maroc. C'est la concrétisation, en effet, de l'accord de 1904. Et c'est à partir de ce moment-là, d'ailleurs, que l'on parle vraiment d'entente cordiale. En 1904, le mot, en tout cas en avril 1904, le mot n'est pas encore lancé.
Charles Benoît utilisait l'expression de détente cordiale avant d'utiliser ce terme d'entente cordiale.
C'est ça, oui. Oui, oui, c'est une démarche progressive. C'est parti très doucement. Et ça se solidifie. Ça se solidifie face à la menace allemande, il faut bien le dire. Et donc, il y a une triple entente en 1907 qui n'est pas à déclenchement automatique. Et il ne faut pas croire qu'à partir de là, la configuration de 1914 est jouée. Non, l'Allemagne conserve encore ses capacités de jeu, de sa mobilité sur l'échiquier européen. Et l'Allemagne, d'ailleurs, pense que l'Angleterre ne se laissera pas entraîner par ces accords avec la France et avec la Russie. Qu'il n'y a pas d'automatisme et qu'il y a une chance pour l'Allemagne et pour la diplomatie allemande d'obtenir, dans le conflit qui se prépare, la neutralité de l'Angleterre. Et même peut-être d'éviter une guerre en obtenant aussi que la France n'intervienne pas dans la question des Balkans. Et on est très frappé de constater que jusqu'en début août 1914, le cabinet de Londres n'a pas encore décidé de savoir s'il interviendra ou non dans le conflit. Et la neutralité, il y a des partisans de la neutralité qui expriment leur opinion à la Chambre des communes et le cabinet anglais délibère encore de cette question, je crois, le 2 août 14. Et puis c'est l'invasion de la Belgique par les armées allemandes qui mettent une fois de plus en verre sous la domination des armées allemandes. Et ça, l'Angleterre ne peut pas le supporter. Et donc, avant que ça se produise, l'Angleterre fait jouer l'alliance.
C'est une constante de sa politique qui... Ouais. Qu'à partir du moment où l'Allemagne entre en Belgique ou que la France entre en Belgique, ah oui. Eh bien, l'Angleterre intervient.
Les intérêts vitaux de l'Angleterre sont menacés. Et à ce moment-là, alors, ce n'est plus l'entente cordiale, c'est l'alliance. Et c'est là que les choses prennent leur essor, leur développement formidable, parce que les deux nations supportent le choc, conduisent la guerre ensemble et... C'est leur alliance qui crée l'entraînement des États-Unis d'Amérique plus tard, et c'est leur alliance qui remporte la victoire. Ce qui n'est pas rien, n'est-ce pas, en 1918. Et on voit apparaître là la notion si importante des alliés. Les alliés, ce que ça a représenté, y compris dans l'opinion, là on déborde le cercle diplomatique, les chancelleries. Les alliés, c'est une notion de l'opinion publique très fortement ressentie par les Français et par les Anglais. Les cimetières sont là pour faire se souvenir que c'est l'alliance qui a gagné et remporté la guerre. Et la chose se renforce encore du fait qu'après la guerre... Les États-Unis, repris par leur isolationnisme, ne participent pas à la reconstruction du monde et à la société des nations. Et donc c'est la France et la Grande-Bretagne qui se trouvent en charge de piloter l'ensemble. On ne peut pas dire qu'elles le font de manière tout à fait satisfaisante, puisque ça va être une succession d'échecs et de chaos. Mais enfin, c'est leur responsabilité commune et de cette manière, l'entente cordiale subsiste. Et puis, alors, les choses se coagulent encore avec la seconde menace et la seconde alliance en 1939 et la seconde guerre supportée ensemble de manière encore plus éprouvante et encore plus étroite que la première fois, puisque la Grande-Bretagne est en première ligne très vite à cause de l'effondrement de la résistance française à l'avancée allemande, et que, alors ce sont des pages qui sont restées dans le souvenir de tous et qui sont inscrites dans la grande histoire, mais enfin, cela va de la proposition de Churchill de l'union des deux pays pour résister à la menace allemande, tant est immense l'enjeu que représente un risque de d'hégémonie, de domination de l'Europe par l'Allemagne nazie face à la Grande-Bretagne et la France qui ne peuvent pas accepter cette hégémonie. Alors, c'est une proposition peut-être mal formulée, qui n'était pas préparée, mais elle a été faite. Et puis, alors, l'accueil du général de Gaulle à Londres et la France libre réfugiée à Londres, accueillie à Londres pour finalement que la France rejoigne les alliés. Toujours la même notion, les alliés, et participent à la victoire avec aussi l'entraînement que cette force représente pour les États-Unis d'Amérique. Donc la réédition de cette aventure glorieuse et dramatique commune fait que l'entente cordiale se solidifie, c'est devenu quelque chose de monumental. Et on pourrait espérer que les deux pays se tiendraient à cette conception des alliés dont l'entente peut avoir une influence dominante sur l'organisation du monde. Alors ce n'est pas ce qui se produit, évidemment. Les deux grandes puissances, elles, sont capables d'organiser seules l'après-guerre et ont à peine besoin de l'Angleterre et de la France, plus de l'Angleterre que de la France. N'oublions pas que c'est à cause de Churchill et de la Grande-Bretagne que la France retrouve sa place de grand en 1945, et sa place de vainqueur et sa place de membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Ce sont des choses qu'on ne peut pas oublier, n'est-ce pas ? Alors, bien entendu, après, il y a des hauts et des bas de l'entente cordiale. 100 ans d'entente cordiale, c'est plus de mésentente que d'entente dans la durée. Thank you.
insistez beaucoup dans votre article dans la Revue des Deux Mondes du mois de janvier 2004 sur ses hauts et ses bas. Et pendant la période de l'entre-deux-guerres, il y a de nombreux, de nombreux moments où l'Angleterre, en fait, où l'Angleterre ne soutient pas la France dans sa politique vis-à-vis de l'Allemagne.
Ben, vis-à-vis de l'Allemagne, vis-à-vis du désarmement, vis-à-vis des dommages de guerre, vis-à-vis de, enfin, le nombre de sujets d'opposition, de tension est très grand.
Ce n'est pas une idylle, hein. Nul romantisme.
Non, il n'y a pas de romantisme, il n'y a même plus de souvenirs d'entente cordiale. Et alors, les choses sont encore plus vraies peut-être après la Seconde Guerre mondiale, où les sujets de difficultés, là aussi, abondent. Il y a, les deux pays vivent la décolonisation, ils ne la vivent pas de la même manière, et l'Angleterre, selon son style, en donnant l'indépendance à ses dominions, la France avec un peu plus de crispation et de conflit. La construction européenne est un autre sujet de tension. Les deux pays n'envisagent pas la construction européenne de la même manière. Il faudra beaucoup d'attente, beaucoup de déception, de crispation pour que finalement la Grande-Bretagne rejoigne la construction européenne. Et ce chemin n'est pas encore complètement accompli. Et à mon avis, il y a encore de nombreuses étapes à franchir dans cette voie-là. Et je, étant profondément européen, je souhaite ardemment que la Grande-Bretagne accomplisse ces étapes pour rejoindre complètement la construction de l'Europe. Cela m'apparaît indispensable à une vraie construction européenne. Il y a les derniers soubresauts des puissances mondiales qui se traduisent par des déconvenues. L'affaire de Suez est désastreuse. Évidemment, elle ne favorise pas le concept d'une entente cordiale qui placerait les deux pays sur le devant de la scène.
Elle montre l'influence des Américains sur l'Angleterre.
Elle montre la toute-puissance des Américains et l'attitude aussi dans l'OTAN de la Grande-Bretagne, allié privilégié des Américains, ne facilite pas non plus la position de la France. La politique du général de Gaulle n'est pas non plus une politique d'entente cordiale, encore qu'elle serait assez près de celle de Louis-Philippe. C'est une entente cordiale personnelle, à condition que ça reste personnel, n'est-ce pas, que ça soit. Mais enfin, il est souvent intraitable et difficile comme partenaire. Donc, il y a autant d'épisodes de mésentente que de tentatives d'entente cordiale. Si bien qu'aujourd'hui, en 2004, peut-on vraiment parler d'entente cordiale et que célèbre-t-on ? Car on célèbre un centenaire. Alors que célèbre-t-on ? Est-ce qu'on célèbre l'événement de 1904 en regrettant qu'il se soit dissipé, que ses conséquences se soient dissipées ? Est-ce qu'on célèbre 100 ans d'entente cordiale ? Nous venons de dire que non. On célèbre 100 ans, mais pas de... Et est-ce qu'on célèbre l'actualité de la notion d'entente cordiale ? Alors moi, je prends très fortement position pour dire que l'entente cordiale s'étant solidifiée au prix à travers des épreuves immenses, a pris la valeur d'un concept et est portée, vivifiée par un certain nombre de valeurs. Et que si les deux pays ont vu leur influence diplomatique, militaire, économique diminuer en valeur relative, et que si maintenant il n'y a plus qu'une superpuissance au monde, et que la Grande-Bretagne et la France sont situées au second rang, peut-être même au troisième ou au quatrième, eh bien le concept d'entente cordiale continue à avoir une importance extrême, précisément à cause des valeurs sur lesquelles repose cette entente cordiale. Et je crois que la vraie raison de cette célébration, c'est bien celle-là, c'est de se ressouvenir que la Grande-Bretagne et la France sont les nations mères du parlementarisme, très anciennement, et des droits de l'homme, moins anciennement, de la liberté individuelle, de la notion d'économie libérale, de la notion d'individu, d'un certain style de société. On pourrait décliner les valeurs, n'est-ce pas, la notion d'égalité entre les hommes, la notion d'égalité entre l'homme et la femme, la notion de protection de la famille en tant que cercle assez restreint, une famille assez individualiste, n'est-ce pas, qui se combine avec l'individualisme. Valeur aussi de la liberté d'entreprendre, de la propriété, de la concurrence, toutes notions qui fondent un certain style de société. Alors, d'où vient qu'il faille célébrer ces valeurs ? Parce que, après tout, ce sont les valeurs universelles. Si on relit la Déclaration des droits de l'homme des Nations Unies, on trouve cela, mais c'était en 1948. Et il est même sûr que si les Nations Unies entreprenaient une déclaration des droits de l'homme maintenant, on aboutisse au même résultat et même probablement les Nations Unies ne pourraient pas aboutir à une déclaration des droits de l'homme aujourd'hui. Et donc il faut s'interroger sur la force de ces valeurs. Nous considérons que depuis 1789, l'Angleterre depuis 1200 et quelques, elles ont une valeur universelle. Et nous en sommes infiniment persuadés. Personne ne nous fera changer d'avis. Si on regarde le monde aujourd'hui, ont-elles encore une valeur universelle ? Les droits de la personne humaine, l'égalité des hommes, l'égalité de l'homme et de la femme, la protection des enfants, le respect de la propriété privée, la liberté de religion, une certaine conception laïcisée de la société, est-ce que ces valeurs ont encore une portée universelle dans le monde d'aujourd'hui? On peut en douter, on peut craindre, mais il faut affirmer avec force que ces valeurs ont une portée universelle et qu'elles sont le ressort de la civilisation, tout simplement. Elles sont le fond commun du progrès de l'humanité. Et donc, tout ce qu'on peut dire, c'est que le monde connaît actuellement une phase de transition et que les communautés humaines dans le monde qui n'affirment pas ces valeurs comme les leurs, eh bien, c'est une situation transitoire et qu'elle s'achemine lentement, certes, très lentement, mais avec des soubresauts, mais elle s'achemine nécessairement vers une reconnaissance de ces valeurs. Et alors, je me rends très bien compte de ce que cette déclaration a de grandiloquent. Je ne voudrais pas que l'auditeur... Mais enfin, il faut la faire, il faut en être persuadé. Et il faut surtout être persuadé de ceci, qui a peut-être plus de portée concrète, limitons-nous à ce qui peut être utile. C'est que l'entente entre la Grande-Bretagne et la France est certainement très importante pour les deux nations, pour les deux peuples, pour les deux sociétés, pour les deux systèmes de formation, de progrès social, de couverture sociale, de progrès de santé, de progrès scientifique, etc. C'est important. La France et la Grande-Bretagne sont beaucoup plus fortes, chacune, lorsqu'elles sont unies, que lorsqu'elles se divisent. Mais le point essentiel, à mon avis, c'est que lorsque la France et la Grande-Bretagne s'entendent sur des sujets essentiels, sur des valeurs, eh bien, leur entente a une portée qui bénéficie à l'ensemble des autres nations. Et c'est ça le plus important.
Je vous propose, Gabriel De Breuil, de revenir sur cette question après une seconde pause.
Canal Académie.
La médiathèque de Canal Académie, c'est plus de 800 émissions en libre téléchargement. Vous avez aimé ce programme ? Vous avez apprécié cette émission ? Vous aimeriez réentendre cet académicien ? Retrouvez cette émission dans la médiathèque de Canal Académie. Le téléchargement est gratuit.
Vous écoutez Canal Académie.
Un jour dans l'histoire reçoit Gabriel De Breuil et nous évoquons les 100 ans d'entente cordiale, donc 1904-2004. Alors, vous le rappeliez justement, il y a un ensemble de valeurs communes, mais est-ce que nous avons, nous Français, une conception identique à celle des Anglais sur l'entente cordiale? Est-ce qu'on peut parler d'une opposition parfois. Est-ce que la France n'a pas tendance à finalement délaisser l'Angleterre pour aller vers l'Allemagne, comme elle a pu le faire au fond à un moment lors de l'entre-deux-guerres. L'entre-deux-guerres était plus marqué par le couple Briand-Stresemann que par le couple français-anglais.
C'est une question très importante que vous posez là. Elle a plusieurs aspects, l'un affectif et l'autre diplomatique ou de puissance. Alors tout d'abord, je voulais dire que vous avez raison de dire, est-ce que la France et la Grande-Bretagne, les deux sociétés, les deux populations, les deux nations, regardent l'entente cordiale de la même manière? Je ne le crois pas. Je crois que les Français conceptualisent plus la notion d'entente cordiale et y ajoutent quelque chose d'un peu plus riche, peut-être vivant même, que ne le font les Anglais. Les Anglais, au fond, je me demande s'ils sont tellement attachés à cette notion d'entente cordiale et s'ils ne trouvent pas ça un peu, pas suffisamment valorisant pour eux.
Vous évoquez dans votre article ces visions différentes entre pragmatisme et abstraction, entre intérêt et sentiment, entre étatisme et initiative privée.
Oui, c'est ça. On ne voit pas les choses de la même manière, jamais, sur aucun point. C'est le propre de la France et de la Grande-Bretagne, c'est d'avoir toujours des visions différentes sur tous les problèmes, tous les uns après les autres. Mais justement, c'est ça qui fait la richesse de l'entente lorsqu'elle a lieu. Il faut dire que l'opinion française est favorable à une entente avec la Grande-Bretagne, mais pas passionné, favorable simplement. L'opinion anglaise est remuée par des mouvements de presse qui, eux, sont franchement hostiles, au point que toute la classe dirigeante anglaise, tous les hommes politiques, tous les responsables britanniques sont gênés de l'attitude de la presse populaire anglaise à l'égard de la France. Et il faut dire que c'est une situation très regrettable et que c'est même gênant pour la Grande-Bretagne d'avoir des attaques d'une telle outrance, une telle incompréhension, une telle facilité d'invective à l'égard d'un pays voisin, et le seul voisin que la Grande-Bretagne est. Et en plus, avec le développement des relations individuelles, sociales, qui existent maintenant entre la Grande-Bretagne et la France, on ne comprend pas, les Anglais eux-mêmes ne comprennent pas quel est le ressort d'une certaine presse populaire anglaise qui vraiment dépasse les limites.
Oui, cette opposition a été nette pendant la guerre en Irak.
Évidemment, elle s'est manifestée très fortement pendant la guerre en Irak, d'où la nécessité que nous partageons complètement avec les responsables britanniques de célébrer l'entente cordiale en 2004. Je crois que les moments les plus difficiles de l'affaire d'Irak sont passés maintenant et que nous retrouvons un dialogue et une possibilité d'entente tout à fait utile, efficace et même apaisé avec la Grande-Bretagne. Mais alors, il faut aborder le point de vue affectif, entente cordiale. Alors, de quelle manière la France envisage-t-elle ses relations avec les autres pays ? Nous avons eu, par exemple, des relations follement étroites avec l'Italie dans les siècles passés. La France a été à l'heure italienne, sous la Renaissance. Nous avons eu des relations presque hystériques avec la Russie au moment de l'alliance franco-russe. Les Français se prenaient de passion pour les Russes et tout ce qui était russe était l'objet d'ovations. Ça a été une alliance très affective, très chaudement ressentie. Avec la Grande-Bretagne, donc, cette entente cordiale, elle est déclarée par les élites, elle est partagée par l'opinion, mais sans passion. Il y a une chose qu'il faut regretter, c'est que les relations sociales entre les deux pays, les deux sociétés, étaient beaucoup plus importantes autrefois. Et que, curieusement, elles ont tendance à se distendre de nos jours. Les Français avaient chacun, toutes les familles françaises avaient des relations avec des familles anglaises. Les mariages entre les deux sociétés étaient plus importants. Le nombre de femmes anglaises qui étaient en France était beaucoup plus important autrefois, il y a 100 ans ou 200 ans, que maintenant.
Est-ce que ce n'est pas à cause du déclin du rayonnement de la culture française ?
En partie oui, mais je voudrais en venir à cette constatation un peu désabusée que le déclin, il est partagé aussi de l'autre côté de la Grande-Bretagne avec un sentiment très affecté. En réalité, nous avons l'impression aujourd'hui que lorsqu'on parle d'entente cordiale, ce sont les deux grandeurs dépassées, n'est-ce pas, qui s'épanchent l'une l'autre en se consolant.
Et qui font rire les États-Unis.
De leur déclin. Et alors, on en arrive aux États-Unis, n'est-ce pas ? Alors, c'est la grande question, en réalité. C'est la grande question. La France a une amitié traditionnelle. On y tient beaucoup. Ça existe, c'est très vivant, c'est très, très chaud, même dans l'opinion, n'est-ce pas ? Lafayette. Et c'est ressenti, c'est partagé aussi par les Américains. Alors, nous sommes un peu agacés toujours de voir la relation spéciale qui existe entre les États-Unis et la Grande-Bretagne. Et ça, rien ne pourra affaiblir cette relation spéciale, en tout cas au XXe et au XXIe siècle, n'est-ce pas ? Elle existe, elle est là, elle est très forte. Les Britanniques y tiennent essentiellement. Ils y en tirent d'ailleurs une partie de leur puissance d'aujourd'hui. Et donc, c'est une chose qui existe. Il ne faut pas simplement que cela assombrisse les relations entre la France et la Grande-Bretagne, et il ne faut pas que cela empêche la Grande-Bretagne de concevoir un avenir européen pour ce pays. Alors je dis ça, je suppose le problème résolu, n'est-ce pas ? Parce que pour le moment, si l'Angleterre avait à choisir, je ne sais pas exactement, s'il fallait choisir vraiment, je ne sais pas quel serait son choix. C'est bien pour cela que les gouvernements anglais n'envisagent pas de référendum pour s'ancrer plus étroitement sur le continent. Mais enfin, il se crée ces temps-ci des pas considérables dans la voie d'une plus grande compréhension et d'un plus grand engagement de la Grande-Bretagne dans un avenir européen avec la France. Et à ce moment-là, on s'aperçoit que l'avenir européen avec la France, ça veut dire un avenir partagé avec l'Allemagne. Et on aborde la question du couple franco-allemand, n'est-ce pas ? On a parlé de l'entente, de l'amitié, de l'alliance russe et le couple.
La France, effectivement, ne favorise-t-elle pas l'Allemagne avant son voisin anglais?
Alors, aujourd'hui, on pourrait le penser. Que faut-il penser de cette tendance qui nous rapproche de l'Allemagne? Alors, ça a été le geste le plus heureux qui a été fait par les pères fondateurs de l'Europe. C'est à la fois la génération des Robert Schuman et Adenauer et la génération de De Gaulle qui a été de sceller le rapprochement définitivement, de faire vraiment table rase du passé trop cruel et de concevoir. Et là, c'est vraiment l'action des hommes d'État qui a précédé celle des sociétés et même de l'opinion, n'est-ce pas ? Les hommes d'État ont compris qu'il fallait tourner la page et orienter les deux peuples vers un avenir fraternel. Immense tâche, réussie pleinement. Donc de cela, on ne peut que se féliciter, il faut le maintenir, l'enrichir. Est-ce qu'il faut aller plus loin et envisager le couple franco-allemand comme le moteur de l'Europe ? Alors, c'est la tendance actuelle. Et il faut dire que cette tendance obtient des résultats en faveur de la France, et donc c'est probablement bon pour nous, puisque c'est un des moyens de réussite d'un certain nombre de choses, et que cela a des résultats favorables aussi pour la construction européenne, ce qui n'est pas rien. Mais il faut constater aussi que cette notion agace profondément les autres partenaires de l'Europe, qui ne conçoivent mal qu'il y ait un directoire franco-allemand pour cette entreprise quasi-fédérale, en tout cas confédérale, à 15 et à plus, qu'est devenue la construction européenne. D'où l'intérêt d'y associer plus étroitement la Grande-Bretagne. Et c'est que ce peut-être ce qui est en train de se produire en ce moment. Si le couple franco-allemand s'élargit pour devenir, ne parlons pas de couple à trois, mais enfin, une réunion des trois pays les plus importants, les plus développés, les plus nombreux de l'Europe. Alors, à mon avis, il n'y a que des effets bénéfiques à en retirer. pour la construction européenne, pour l'ancrage de la Grande-Bretagne en Europe, et je considère que c'est un enjeu de civilisation que de tout faire pour que la Grande-Bretagne conçoive son avenir comme européen, et également pour la France, qui joue dans ce concert, à trois, un rôle probablement efficace, irremplaçable, et qui en tout cas est bien placé pour servir de point de jonction, je ne parle pas géographique, mais de point de jonction entre l'Allemagne et la Grande-Bretagne, qui ne sont pas tellement prêts de jouer ensemble un avenir commun plus étroit. Et donc, c'est une chance aussi pour la France. Et c'est probablement une configuration qui ne peut pas être contestée par les autres partenaires de l'Union européenne. Bien entendu, il ne faut pas l'affirmer de manière arrogante. Il faut simplement que ce soit la traduction des faits, du poids spécifique de chacun. Et il faut que chaque pays européen, chaque partenaire de la construction européenne conçoive qu'il y a une pondération, n'est-ce pas, dans le débat sur la constitution européenne actuellement et l'irritation de deux pays, la Pologne et l'Espagne, il y a le refus de la vraie pondération. Il y a que dans un moment, peut-être un peu trop hâtivement décidé, au sommet de Nice, on a donné une certaine pondération à tous les partenaires de la construction européenne, tous d'ailleurs, et que cette pondération n'était pas la bonne, et qu'elle favorise à l'excès tous les pays autres que les trois principaux pays, et qu'elle défavorise l'Allemagne, d'ailleurs. Alors, la démonstration a été faite au sein de la Convention européenne que ce système n'était pas viable. Et d'ailleurs, tout le monde a été d'accord pour le réformer. Il y a eu unanimité pour réformer le système de Nice et pour convenir d'une autre pondération. Cette autre pondération nous convient. Convient à la Grande-Bretagne et convient à l'Allemagne, puisque ça lui donne un poids plus important comme étant la nation la plus peuplée. Toutes les autres nations avaient accepté ça au sein de la Convention européenne. Il est à souhaiter que un travail de mûrissement diplomatique s'effectue en ce moment, au cours de l'année 2004, pour qu'on revienne à ce qui avait été conclu comme arrangement possible entre tous les pays d'Europe au sein de la Convention européenne et que l'accord se fasse sur le texte de la Convention, la Constitution. Je le souhaite beaucoup au sein de l'année 2004 parce qu'on ne peut pas vivre dans l'incertitude sur une Constitution européenne. Et c'est une étape essentielle.
Est-ce que ça signifie que l'Angleterre est la clé de l'Europe ?
Alors, moi je ne le pense pas, non. Pour le moment, l'Angleterre n'est pas la clé de l'Europe. Elle conçoit de jouer un jeu qui concilie à peu près totalement ses intérêts qui sont encore à préserver de grande puissance, son alliance privilégiée avec les États-Unis d'Amérique et son rôle à égalité avec les autres grands au sein de l'Europe. Et elle pense qu'elle peut continuer à jouer cela. Mais d'ailleurs, après tout, nous, est-ce que nous ne devrions pas penser un peu la même chose ? Est-ce que la France ne devrait pas penser aussi qu'elle a continué à préserver son rôle de grande puissance mondiale, avec des intérêts de puissance, dans toutes les parties du monde ? Sa langue à vocation universelle, la deuxième langue du monde ? Son économie, son industrie, sa recherche, ses progrès scientifiques, etc. A préservé son alliance avec les États-Unis, bien entendu. Nous avons aussi notre amitié traditionnelle, qui est une alliance étroite avec les États-Unis, et une alliance étroite avec la Grande-Bretagne et l'Allemagne. Nous aussi, nous avons à concilier ces impératifs. L'avenir, autrement dit, nous avons en commun avec la Grande-Bretagne le fait que la construction européenne ne borne pas notre horizon.
Eh bien, Gabriel De Vreuil, c'est sur ces mots que nous allons nous quitter. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes membre de la Française et de l'Académie des sciences morales et politiques, section générale. Je renvoie nos auditeurs à la Revue des Deux Mondes, à sa livraison du mois de janvier 2004, qui est consacrée donc aux 100 ans d'entente cordiale. Et je donne rendez-vous à nos auditeurs la semaine prochaine. Merci et à bientôt.